Bonjour Raymond Richard au micro. Et bien pour cette émission Histoire et mémoire, je reçois Monsieur Chantraine, qui est conservateur du musée Marcel de Sales à Dreux et qui va nous parler de l'exposition Trésors cachés. Et à cette occasion, nous allons parler des trésors cachés. Merci Monsieur Chantraine d'être venu à Radio Grand Ciel nous parler un peu en préliminaire de l'expo de ces trésors cachés du musée.
Bien, merci de me recevoir aujourd'hui pour cette émission Histoire et mémoire. Je suis ravi de venir présenter l'exposition, je dirais presque en avant-première, parce que au moment où je vous parle, elle n'est pas encore montée. Mais nous avons préparé quelques surprises.
Alors, de bonnes surprises. Donc, alors, je rappelle, le musée Marcel de Sales est à Dreux. Et eh bien, nous allons parler de ces trésors cachés que vous ne manquerez pas de venir voir.
Nous l'espérons.
Voilà. Alors, justement, moi je me disais, bon, des trésors cachés au musée, et puis si, il y en a. Alors, racontez-nous un peu c'est la découverte de ces pépites.
Alors, le musée est un musée situé dans une ancienne chapelle, et les salles d'exposition sont pleines de peintures, de sculptures, parfois même de dessins, d'objets archéologiques, etc., etc. C'est une collection qui est très hétéroclite et puis surtout transhistorique. Elle aborde à peu près toutes les périodes de l'histoire et même de la préhistoire. Donc c'est un musée qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, surtout qu'il conserve des œuvres majeures. On pense, lorsque l'on parle du musée de Dreux, au tableau de Claude Monet, la partie haute que Claude Monet avait imaginée au Nymphéa, intitulée « Les glycines ». Eh bien, outre ce tableau, très célèbre maintenant, il y a aussi des trésors qui ont été cachés, je dirais, cachés par mes prédécesseurs, cachés peut-être un peu par moi-même, parce que ces œuvres-là n'avaient pas encore été découvertes. Tout simplement, elles étaient dans les réserves, et elles vont être révélées au public grâce à cette exposition, intitulée, très logiquement d'ailleurs, « Trésors cachés ». Qu'est-ce qu'un trésor, je dirais? Eh bien, c'est quelque chose que l'on conserve souvent à l'abri de la lumière, à l'abri du monde, à l'abri des yeux eux-mêmes, à l'abri de toutes les émotions que l'on peut ressentir devant une œuvre. Et là, justement, eh bien, c'est la capacité maintenant qu'a le musée à montrer ces œuvres pour faire vivre de nouvelles émotions aux visiteurs que nous avons souhaité mettre en œuvre dans le cadre de cette exposition. Alors comment avons-nous découvert ces trésors?
Oui, ce que j'allais dire, eh ben oui. Trésors cachés, parce qu'en fait, on peut parcourir les réserves, mais j'imagine que ça ne saute pas aux yeux. Il faut peut-être fouiller, aller dans les tiroirs. Enfin,
il se cache bien en plus.
Il se cache bien.
Parce qu'il y a de nombreux tiroirs dans les réserves, de nombreux racks. Alors il se trouve que le Code du patrimoine, qui a été institué en l'année 2004, pour les musées labellisés Musée de France, comme c'est le cas pour le musée Dreux, impose de réaliser ce que l'on appelle, dans notre jargon scientifique, le récollement décennal. Alors qu'est-ce que c'est le récollement décennal? Eh bien c'est tous les 10 ans pour les musées, à partir de 2004, donc jusqu'en 2014, a priori, le récollement du musée de Dreux a duré 2 ans supplémentaires, mais finalement, nous sommes dans les temps par rapport à d'autres musées, d'autres collègues qui sont encore dans ce fameux récollement.
Dans la préparation, vous me disiez combien d'objets au musée de Dreux, parce que ça aussi, c'est quand même impressionnant.
Et ça, on ne le sait pas au début. C'est-à-dire qu'on a un registre d'inventaire qui fait foi légalement de ce que nous avons a priori dans nos collections, et on se rend compte que le récollement nous apporte bien des indices quant à ces œuvres oubliées. Je m'explique. Le récollement, c'est aller voir en lieu et place quelles sont les œuvres conservées dans nos espaces d'exposition et de réserve. Et on s'aperçoit qu'en réalité, eh bien, tout n'est pas sur l'inventaire. Il y a des objets qui ont été mis ça et là dans les réserves et qui se révèlent être de véritables pépites. Je pense à des œuvres que nous allons aborder aujourd'hui dans notre entretien, à une lettre d'Alexandre Dumas, par exemple.
Oui, alors c'est vrai, les Drouets savent que Victor Hugo est venu à Dreux, mais Alexandre Dumas...
Oui, le musée de Dreux a longtemps côtoyé les archives et la bibliothèque dans un seul et même bâtiment. Maintenant, c'est plus du tout le cas. La plupart des livres anciens ou des archives ont rejoint le fonds local à la médiathèque de l'Odyssée. Il y a même une section archives qui fait très bien son travail d'ailleurs et qui va bientôt absorber toutes ces archives que nous avons retrouvées dans nos réserves. Près de 10 000 pièces, rendez-vous compte, 10 000 pièces d'archives, pour la plupart inédites. Nous avons des autographes d'Henri IV, des lettres vraiment anciennes et parfois révélatrices de la vie elle-même de leurs auteurs. Je pense en particulier à cette lettre d'Alexandre Dumas qui rejoint le panthéon de ces écrivains venus s'en amourer d'une jeune fille à Dreux. Oui, vous évoquiez Victor Hugo, dont on sait qu'il a rejoint la ville de Dreux pour découvrir Adèle Fouché en 1821. Et l'année suivante, eh bien, c'est Alexandre Dumas qui quitte Villers-Cotterêts suite à une peine d'amour, puisqu'il s'était rendu très sensible d'une femme, Aglaé Tellier, que l'on s'était empressé de marier à un autre homme. Eh bien, Alexandre Dumas va rejoindre sa belle famille qui habite à Dreux. Et là, il va découvrir une jeune femme nommée Lucie, une mystérieuse Lucie, puisqu'il ne révèle pas son nom de famille dans sa lettre, qui est adressée à un ami. Et il nous livre là quelques mots bien savoureux que je vais prendre plaisir à vous lire, puisque ce sont des mots inédits d'Alexandre Dumas. Donc, chers auditeurs, vous êtes parmi les premiers à les entendre. Je vous avouerai, mon cher Boussin, qui est l'ami à qui cette lettre est adressée, qui habite en Bretagne, que n'étant pas habitué à l'amour platonique, son langage à cette Lucie m'est peu familier, mais dans tous les cas ne peut durer, car n'étant ici que pour un mois ou deux, il faudra bien me décider à brusquer l'attaque. Et oui, cette mystérieuse Lucie était mariée, et elle se refusait donc à Alexandre Dumas. Nous ne connaissons pas la suite, mesdames, messieurs. Toujours est-il qu'il prolongea en poème sa prose, car vous savez que les belles ont un singulier défaut, c'est d'être souvent comme les citadelles qui résistent au siège et sont prises d'assaut. Voilà quelques mots d'Alexandre Dumas.
Donc, une lettre d'Alexandre Dumas.
Alors, une lettre d'Alexandre Dumas, certes, mais parmi les archives et a fortiori les arts graphiques que conserve le musée, parmi les œuvres qui ont été découvertes, qui n'étaient pas portées à l'inventaire et qui n'ont d'ailleurs pour certaines pas d'historique de donation ou d'acquisition, eh bien, nous avons retrouvé un portrait. Un portrait qui est réalisé au crayon, à la mine de plomb, sur papier, avec quelques réaux de craie blanche, qui en fait d'ailleurs une œuvre très léchée, d'une grande sensibilité de la main. Et il s'agit d'un portrait d'Elisa en page. Alors encore une femme bien mystérieuse, on ne sait pas qui est cette Elisa, on sait qu'elle est travestie en page, ce qu'il adjoint probablement à l'univers du spectacle, du théâtre, et cette œuvre n'est pas signée, elle a été réalisée par une main anonyme, précisément, et c'est daté sur le dessin, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, 1877. Il s'agit d'une œuvre qui évoque l'art troubadour, bien entendu. Elle est trop tardive pour être rattachée à ce mouvement artistique, mais elle est quand même dans cette veine. Je dirais qu'on pourrait la rattacher à quelques artistes comme les tableaux Troubadour d'Ingres, qui représentent aussi le même univers, mais aussi à quelques portraits lithographiés en buste diffusés dans les années 1820-1840, tels ceux réalisés par Henri Grévedon. Cette analyse que je vous livre ici a été faite par un conservateur qui est responsable des peintures anciennes au Musée des Beaux-Arts de Lyon et qui est un collègue, Stéphane Pacou. Alors, la grande qualité, je dirais en tout cas, que je souhaitais apporter à cette exposition, c'est la contribution de plusieurs auteurs, contributeurs, experts, qu'ils viennent du milieu muséal ou de l'université. Voilà, donc des œuvres, et vous pourrez le considérer dans le catalogue si vous l'achetez, qui sera vendu 10 euros, le catalogue de l'exposition. Eh bien, ces œuvres du musée de Dreux ont attiré la curiosité de certains et ont permis finalement de livrer des analyses très intéressantes, en grand nombre d'ailleurs, hein, puisqu'il y a une soixantaine d'œuvres présentées et il y a 60 analyses.
Ah oui. Donc là, vous recourez aussi aux collègues.
Eh bien, tiens, en parlant de collègues, figurez-vous que cette exposition est en partenariat avec le C2RMF. Je pense qu'il y en a très peu qui le
savent. Le C2RMF, alors voilà.
Ce qu'est le C2RMF. Oui. Alors, C2RMF, c'est le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. C'est un organe de l'État qui est basé au Louvre et qui est basé aussi aux Petites Écuries du Roi à Versailles. Nous avons travaillé vraiment en toute confiance, parfois sans relâche, je dirais même avec mes remerciements les plus sincères à mes collègues du C2RMF, ceux-ci ont dû certainement travailler bénévolement pour écrire les textes qu'ils ont livrés pour le catalogue justement. Et ils ont abrité des œuvres que nous avons aussi trouvées dans les réserves de peinture. Des peintures, encore une fois, sans historique d'acquisition, mais qui étaient de longue date réputées être dans ces espaces de conservation dédiés au musée de Dreux, dont je ne révélerai pas l'adresse. Eh bien, il s'agit notamment de ce que l'on a titré au début d'une figure de saint. Figure de saint, puis finalement, en regardant d'un petit peu plus près, on a pensé que cela pouvait être un Saint-Pierre. Saint-Pierre pénitent, les yeux levés au ciel, comme en signe de rédemption, en fin de vie, portant la poutre de son crucifiement. Saint-Pierre est ici une œuvre magnifique, alors qui a été retrouvée dans un état déplorable, à savoir pratiquement noir. Donc on ne voyait plus que les yeux qui étaient blancs, un peu de la barbe, un peu du manteau, et puis tout le reste était complètement oublié. Grâce aux amis du musée des archives et de la bibliothèque, qui ont financé intégralement la restauration de cette œuvre, on a pu découvrir une grande main. Une main très efficace dans le tracé, notamment des plis du drapé ou encore de la barbe, des cheveux qui sont virevoltants, qui sont très envolés, très énergiques, très nerveux, qui est caractéristique de l'école napolitaine du XVIIe siècle, de l'entourage de Giuseppe de Ribera, probablement d'ailleurs de son atelier, autour de 1640-1645.
Là, ça veut dire qu'en fait, on remonte dans le temps, on regarde ces œuvres avec, on les compare, on fait un travail de comparaison, de
tout à fait
à quoi ça correspond.
Tout
tiens,
à fait. Yes. On peut avoir un petit peu de flair, c'est-à-dire trouver cette œuvre dans les réserves et puis penser qu'il y a quand même quelque chose derrière cette noirceur des couches qui sont encore superposées les unes sur les autres pour arriver à une œuvre en majesté comme celle-ci, actuellement restaurée. Mais encore faut-il pouvoir se reposer sur le regard, l'expérience, justement, d'experts. C'est ce que nous avons fait. J'ai montré cette œuvre à Nicolas Spinoza, qui est le directeur du musée Capodimonte à Naples, qui lui donc a proposé une attribution à un artiste qui s'appelle Francesco Fracanzano, qui est en effet un peintre napolitain de l'entourage de Ribera. Voilà. Donc on est tout à fait dans une veine naturaliste, qui était celle notamment de l'ancêtre de cette peinture-là à Naples, qui est le Caravage.
Ce qui est étonnant, c'est comment se fait-il qu'une œuvre de Naples arrive à Dreux ? Ça, c'est un peu mystérieux.
Tout à fait. Oui, c'est encore mystérieux d'ailleurs. On ne sait pas comment, par quel truchement. Cela dit, il est tout à fait courant que lors d'un voyage, quelqu'un achète cette œuvre-là au XVIIe siècle même, ou passe commande, par exemple, par l'intermédiaire d'acheteurs, fasse rapatrier une œuvre d'Italie ou d'État italien vers la France. Ça peut être une commande prestigieuse, hein, je pense, pour peut-être des établissements religieux de la région de Dreux. Qui serait arrivé peut-être par des saisies révolutionnaires jusque dans notre musée.
Ah oui, ça c'est aussi une autre possibilité.
C'est une possibilité parmi tant d'autres en effet, oui.
En tout cas, eh bien, ne manquez pas de venir voir la lettre d'Alexandre Dumas, observer cette œuvre, et puis nous allons faire une pause musicale avant de reprendre. Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Histoire et Mémoire avec M. Chantraine qui est conservateur du musée de Dreux et qui nous parle de l'exposition Les Trésors Cachés. Et nous poursuivons dans ces trésors dont vous avez la primeur sur Radio Grand Ciel.
Écoutez, je suis ravi d'être avec vous. Alors, on continue cette belle aventure qui a été une aventure humaine d'ailleurs pour toute l'équipe du musée et même de la partie patrimoine de notre service musée et patrimoine de la ville de Dreux. Puisque ça aurait été oublié une grande partie de notre histoire que de ne pas traiter dans cette exposition Trésors Cachés tout le travail que nous avons mené en concertation avec la paroisse Saint-Étienne en Drouais, l'église Saint-Pierre, donc le clergé affectataire, mais également la conservation des antiquités et objets d'art. Parce qu'il se trouve à l'intérieur de cette église Saint-Pierre de nombreuses merveilles. Alors tant en objets d'art qu'en peinture, des peintures qui datent pour certaines du XVIe siècle, d'autres du XVIIe siècle, encore d'autres du XVIIIe siècle et même jusqu'au XIXe siècle. Ce sont des œuvres qui appartiennent à la ville de Dreux qui pour la plupart sont inscrites ou même classées monuments historiques à titre d'objet. C'est le cas de la première d'un plan pluriannuel de restauration des œuvres d'art de l'église qui a été donc menée en concertation entre la ville de Dreux et la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, donc le représentant du ministère de la Culture en région, pour restaurer donc une dizaine d'œuvres comme ça sur 5 ans. La première œuvre sur laquelle nous sommes attardés, nous avions bien eu raison, je pense, était un choix concerté entre notre conservatrice régionale des antiquités et objets d'art, Fabienne Audebrand, et moi-même. C'est Le Repas chez Simon. Une œuvre qui était, encore une fois, toute noire. Une huile sur bois qui a révélé bien des aspects complètement oubliés là aussi, puisque comme nous ne voyions plus rien, eh bien la restauration a permis de montrer bien des détails.
Alors, elle est superbe.
Elle est superbe. Vous avez l'image évidemment devant vous. Les couleurs sont chatoyantes. Enfin, ce sont des couleurs qui vont du jaune au vert acidulé, au rose même parfois. Ce sont des couleurs très étonnantes hein, pour un tableau qui finalement peut être daté des années 1560-1580. Donc, la fin de la Renaissance. Avant de continuer à discuter de cette œuvre, j'aimerais justement souligner l'engagement qui a été celui d'une autre association d'amis. Alors, on a parlé de l'association des amis du musée, des archives et de la bibliothèque, mais il ne faut surtout pas oublier l'association des amis de l'église Saint-Pierre, représentée par le père Liu et puis bien d'autres, évidemment, qui a sa suite, comme Madame Miu ou Monsieur Jobert, enfin, anime ce patrimoine d'une manière exemplaire et ont participé financièrement à la restauration. Donc ça, je voulais quand même le souligner de façon très amicale. Et puis, évidemment, bien, ça permet de retrouver ces grandes figures sur ce tableau de format vertical. Le Christ, qui se fait laver les pieds par la pécheresse Marie-Madeleine. Et tout cela à la grande surprise des invités à ce repas chez Simon. Il s'agit d'un épisode qui est décrit dans l'Évangile selon saint Luc, 7:36, si vous voulez aller voir la référence. Et Simon le pharisien est entouré d'hôtes richement vêtus. Il a invité à sa table le Christ, dont il découvre l'identité quand une femme lui lave les pieds de ses larmes, les essuie de ses cheveux, et enfin les parfume, comme l'indique d'ailleurs un petit vase qui est posé au sol, juste à côté de cette femme. Le Christ se révèle en fait en bénissant la pécheresse, pardonnée. Du coup, les convives sont pleins de cette stupeur dont je vous ai parlé. Alors, la composition en soi, elle est pas très intéressante à la base, hein. Elle est assez stéréotypée, c'est-à-dire les personnages sont autour d'une table en forme de U pour qu'on les voit bien tous. Celle qui est au devant et qui termine ce cercle, c'est Marie-Madeleine, qui est au pied de Jésus. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont les personnages sont individualisés les uns les autres par leurs vêtements. Ils ne portent absolument pas les mêmes et ça leur donne des caractères très singuliers à chaque fois. Et puis ces vêtements aux couleurs chatoyantes dont on vient de parler, et l'allongement aussi du canon, c'est-à-dire les corps qui sont parfois démesurément allongés, le visage du Christ qui est émacié et qui fait penser à un style peut-être de l'influence de l'école flamande de cette période, hein, du nord en tout cas de la France. Fabien Audebran, qui a écrit le texte pour cette œuvre dans le catalogue, pense notamment à l'influence de l'atelier de Lucas de Lède, qui est né autour de 1494 et mort en 1533, donc quelqu'un qui aurait pu être influencé par le schéma type de l'une de ses compositions représentant justement le repas chez Simon, largement diffusé par les copies et la gravure. Voilà. Vous voyez, c'est toute une histoire là qui se met en branle, qui se met en mouvement en fait. On arrive toujours à aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire, on a une œuvre devant nous et on essaie de la rattacher à des mouvements, à des écoles, sachant qu'il y a toujours des vecteurs de diffusion très intéressants que l'on peut associer. Notamment, là je viens de le dire, la gravure typiquement, hein, ou l'ouvrage, le livre. On sait à quel point le livre a été fondamental dans l'émancipation de la pensée au XVIe siècle. Hein, siècle. Exactement, oui, à l'époque de cette œuvre-là. Et je pense notamment au développement du protestantisme. Hein, Calvin, Luther sont passés justement par la diffusion de leurs idées par les livres, par l'imprimerie.
Aujourd'hui, la même, le fait de tout ce qui circule par Internet,
c'est les réseaux sociaux, même révolution. Tout à fait.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu similaire là. Oui. C'était l'ébranlement de la connaissance livrée à beaucoup par le livre, et maintenant c'est la connaissance livrée à tous, si on le veut, aussi par les réseaux sociaux. Enfin là, je crois qu'on est dans des périodes un peu similaires, et c'est d'autant plus intéressant de voir comment on redécouvre la Bible et on la découvre aussi en l'actualisant. Et c'est ça aussi qui me paraît intéressant, c'est non pas une actualisation simplement au niveau des idées, mais au niveau du costume, des personnages, de la manière de...
Oui, parce qu'ils ne sont pas habillés à l'époque du Christ.
Voilà, on est clair, c'est clair.
Là, ce sont vraiment des personnages de la Renaissance du Nord.
Oui. Mmh,
tout à fait, avec quelques surplis d'Hermine. Voilà, c'est vraiment une très belle œuvre que vous êtes invité à découvrir au musée dans le cadre de cette exposition Trésor caché du 1er avril au 21 décembre. Où vous découvrirez de nombreuses sections. On dit qu'il y a des sections dans une exposition. Évidemment, les archives oubliées, mais il y a aussi, bien entendu, toutes les curiosités et merveilles inclassables du musée, qui forment comme un cabinet de curiosités. Une collection un peu intuitive finalement qui donne beaucoup de charme à notre musée de Dreux. Et bien entendu, une section consacrée entièrement à l'Empire et à la royauté, parce que l'un des leitmotivs de ce musée, c'est quand même la représentation de la famille royale d'Orléans.
Siècle.
Voilà, avec le 19e siècle très large, les portraits, les figures, les paysages aussi, toute l'histoire du paysage au 19e siècle, à travers ce que nous conservons dans nos réserves. Bref, enfin, toutes des sections qui vont vous permettre de voyager. Je pense qu'il faut lâcher prise dans cette exposition, voyager, rêver, se laisser conduire dans
ces
bateaux de pirates, voilà, qui partent de Naples et qui vont à l'assaut de tous ces beaux trésors.
Alors, quelques autres œuvres pour le temps qui nous reste, les 4 ou 5 minutes qui nous restent?
Ah oui, tout à fait.
Voilà, les choses de l'histoire locale, un peu, puisque le musée a été réalisé quand même par un professeur d'histoire.
Et oui, Marcel de Sales.
Alors, il y a aussi donc quelques documents. Alors, ce sont des journaux, là, c'est peut-être moins précieux, mais enfin, encore que.
Encore que. Alors, ce sont des documents, ceux dont je vais vous parler, qui ne sont pas inventoriés, hein, qui n'appartiennent pas au musée à proprement parler, qui sont des documents qui rejoindront justement les archives. Il s'agit de représentations photographiques, mais aussi d'articles, de journaux, pour la tornade qui a eu lieu à Dreux le lundi 18 août 1890. Alors, on ne s'en souvient pas, nous n'étions pas nés, ni vous ni moi, mais à 10h du soir, ça a été le ravage total d'une partie de la ville de Dreux, en particulier dans le tracé de la tornade du quartier Saint-Thibault. Et on voit très bien les photographies qui ont été prises, les héliogravures qui ont été faites à partir de ces photographies dans les journaux à sensation, ou les journaux plus scientifiques, comme c'est le cas ici, dans cette revue intitulée « La nature », que nous présenterons pour son édition du 6 septembre 1890. Avec un article d'ailleurs d'un certain Léon Tesserinck de Bord. Alors, on a complètement oublié ce nom, mais Léon Tesserinck de Bord est un météorologue qui développa notamment l'observation et l'étude de l'atmosphère par l'utilisation de ballons instrumentés. C'est le découvreur de la stratosphère aussi. Il a été élu membre de l'Académie des sciences en 1910 sur ce grand prestige de ses découvertes. Et c'est lui qui écrit sur la tornade de Dreux. Alors, je dirais, on est en 1890, c'est donc peut-être l'une des premières tornades météorologiquement documentées en France. Donc, c'est quand même formidable d'avoir ces traces-là. Quand je dis documenté, c'est-à-dire qu'on sait à quelle vitesse les vents ont été estimés. Hein. C'est 270 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez.
Ah, oui.
270 km/h, c'est plus que notre grande tornade, notre grande tempête de 1999.
Hein, oui.
Où je crois que c'est ce qu'on avait relevé tout en haut de la Tour Eiffel, 270 km/h à ce moment-là. Une trajectoire de 9 km de long et 400 m de large. Hein, donc tous les alentours de Dreux, et puis il est passé par le quartier Saint-Thibault. Il y a eu malheureusement une morte, hein, qui en fait est arrivée en plein milieu de la tornade et a été projetée par le vent à 30 mètres de son cabriolet qui était ouvert.
Voilà. Et voilà, donc nous ne pouvons que vous inviter à découvrir cette exposition, Trésor caché. C'est du 1er avril au 21 décembre 2018. C'est au musée Marcel de Sales à Dreux. Et ne manquez pas une exposition qui vous présente des choses aussi diverses que des peintures, des articles de journaux, des dessins, des œuvres qu'on redécouvre et que vous pourrez venir admirer parce qu'elles ont été restaurées. Donc comment aussi les restaurations se font et permettent aux personnes d'aujourd'hui de découvrir que derrière ce dessin bien noir ou cette image qu'ils ont vue à l'église Saint-Pierre, eh bien, il y a un visage très coloré, il y a une scène à redécouvrir. Donc, bonne redécouverte et ne manquez pas cette exposition. Et merci,
Monsieur
Chantraine, d'être venu à Radio Grand Ciel pour parler de cette exposition. Et je vous dis bonne semaine à tous, au revoir.